J'ai voulu commencer ce soir en faisant écouter un aria de celui de Doña Elvire qui intervient à un certain moment du Don Giovanni de Mozart. C'est le deuxième acte. C'est-à-dire que c'est dans la suite de quelque chose qui est le fait que, à la fin du premier acte, il y a un bal qui est organisé par Don Juan, mais il y a surtout ce que l'on appelle le trio des masques. Le trio des masques, c'est le trio des trois, automatiquement c'est un trio, les deux femmes, Doña Elvire et Doña Anna, et Don Ottavio, qui est celui qui aime Doña Anna. Et à partir de différentes rencontres, on trouvait que, effectivement, Don Juan, était le meurtrier du père de Doña Anna, d'une part, et donc celui aussi qui avait voulu abuser d'elle, Doña Anna. Donc il y a toute une dimension de vengeance qui fonctionne, et à la fin du premier acte, par le biais de ce trio des masques, on les voit arriver, donc ils ont chacun un masque devant. C'est pas du tout pour se cacher, parce que c'est pas du tout ça l'enjeu. À un certain moment, ils arrivent sur la scène et il y a quelque chose d'assez inattendu, puisque alors qu'ils arrivent masqués, ils s'arrêtent et ils enlèvent leur masque. Tout se passe en quelque sorte comme si à ce moment-là, on n'était plus dans, on va dire, la théâtralisation de l'opéra. Et si il y avait quelque chose qui faisait que les acteurs ne sont plus les acteurs, puisqu'ils devraient avoir un masque, ils n'ont plus, et du coup le spectateur n'est plus le spectateur. Il y a un moment assez étrange, particulier, qui n'est pas logique, puisqu'ils arrivent tous les trois, on va dire, gonflés par la vengeance à l'endroit du dissolu, et en fait, ils sont arrêtés. C'est pas un arrêt de crainte ni de peur, on peut dire que c'est l'apparition de quelque chose tel que je viens de le décrire, de quelque chose qui transcende la scène, et qui se passe silencieusement. À la suite de ça, bien sûr, Don Juan sera, pour le coup, lui démasqué, et on arrive au deuxième acte, où ça reprend d'une certaine manière, et où Elvire va être celle qui va reconnaître la voix de Don Juan, et se tromper sur le personnage, puisque elle pense que c'est Don Juan, alors que c'est le serviteur de Don Juan, c'est le Leporello, mais qui compte c'est la voix. Et après, on arrive à un moment particulier qui est celui de que l'on vient d'entendre, à savoir le fait que, alors il y a bien sûr le livret là, à savoir ce qu'il exprime, en gros c'est que Mitradis, on peut le traduire comme ça, c'est le fait de dire, traduire, trahir, que ça. Hein. Qui est-ce qui a trahi elle reconnaît qu'il l'a trahi, en quelque sorte, qu'il est un traître, mais surtout la musique exprime, vous avez pu l'entendre, une sorte d'envolée particulière qui se traduit notamment au niveau des vocalises après un moment où elle exprime un peu son... À la fois, c'est pas un malaise, où elle exprime un peu là où elle en est, c'est-à-dire le fait que, de toute manière, elle l'aime, bien sûr, et que elle est dans un état particulier. Et puis alors, cet état particulier, ça se traduit par l'apparition de cet aréa. C'est-à-dire que Mozart, à ce moment-là, transmet quelque chose qui est bien sûr au-delà du livret de Da Ponte, ou de la vie histoire, et ça nous intéresse parce que c'est effectivement ce qui est en jeu, en quelque sorte, dès que a pu être, on va dire perdu, mais c'est un travail, hein, ça se fait pas comme ça, a pu être perdu le démonisme qu'on a tous en soi, c'est-à-dire que ce qui est en jeu dans le Don Giovanni, hein, et ceci grâce à la musique, j'insiste là-dessus, grâce à la musique, le Don Juan de Molière ne veut pas exprimer ça comme ça, avec des mots, c'est le fait que le démon qui est Don Juan, le démonisme de Don Juan, en fait c'est pas le démonisme de Don Juan, c'est le démonisme que chacun trouve en Don Juan, parce que Don Juan, d'une certaine manière, n'est pas sans être sa propre image. Hein? Image, ça ne veut pas dire qu'on est effectivement identique, hein? C'est pas tout ça l'image, hein? L'image spéculaire. Hein? C'est que chacun se voit, en quelque sorte, en Don Juan. À partir de là, vous voyez, les interrogations qui surviennent, hein, surtout dans notre monde actuel, plus particulièrement, je pense que ça a toujours été comme ça, dès qu'il s'agit de plaintes, de porter plainte, etc. Bon, on se demande bien de quelle plainte il s'agit. Quels que soient les faits, je ne parle pas des faits, là, hein, je parle uniquement de ce qui est en jeu dans la dimension du désir, de la demande et du besoin. Bon, c'est dans le fait qu'on parle. Donc, il y a quelque chose qui se traduit dans la musique, c'est-à-dire dans la voix de cette femme, de Niemeyer, qui est une création de Molière, et que Mozart reprend donc à son propre compte, il y a quelque chose qui est lié au fait qu'elle peut le chanter. Elle peut le chanter. Qu'est-ce que c'est que ce « le chanter » C'est très difficile de dire de quoi il s'agit. Et quand on l'entend, on entend quelque chose, mais je pense que j'ai déjà dit ça la dernière fois, quand on le chante, c'est encore bien autre chose qui traverse le corps. Et ce quelque chose-là de particulier, c'est effectivement ce qu'il est possible, qu'il advienne ou pas, du fait de parler, ça c'est la question du transfert, hein, du fait de parler, et évidemment comme c'est quelque chose qui est porté par, on ne peut pas dire par les mots, c'est bien sûr que c'est porté par les mots, mais par la façon dont les mots ont une certaine musique qu'on n'entend pas véritablement, habituellement, hein, et qui est en quelque sorte trahi cette musique, mais en même temps traduite, hein, le mot trahir, c'est aussi traduire, hein, c'est un mot latin, hein, tradere, hein, trahir et traduire, et on pourrait dire que ce qu'exprime Doña Anna, c'est le fait que elle se trahit elle-même. C'est très compliqué, ça tourne bien effectivement autour de ce mot-là qui débute l'aria, mi tradi, hein, en italien, et qui est lié au fait où elle traduit aussi quelque chose. Mais, vous voyez que là, on est un peu comme dans un mot d'esprit, évidemment, c'est même un mot d'esprit, c'est apprendre comme un mot d'esprit, c'est pas apprendre au sens de ce que le livret donne comme sens. C'est quelque chose qui dépasse. Et on pourrait dire que tout ce qui va suivre dans l'arrière, qui va durer 2 ou 3 minutes, toute cette fioriture, toutes ces envolées d'harmonique qui apparaissent, hein, eh bien, ces vocalises sur les voyelles, c'est une façon de, de transmettre, mais en le trahissant et en traduisant le sens. C'est autre chose, et je crois que l'on peut dire que la voix lyrique, c'est pas pareil avec un instrument, la voix lyrique, c'est ça, c'est quelque chose qui trahit, mais au sens non pas du traître, hein, ou alors le traître, mais il faut le prendre autrement, qui trahit ce qui est attendu, c'est-à-dire le sens. Et évidemment, si elle peut le faire à ce moment-là, Doniana, ça ne veut pas dire que tout est réglé pour autant. Après, elle va revenir à nouveau voir Don Juan pour lui dire de changer à nouveau, puisque c'est son leitmotiv qui change de vie, hein, qui vient vers elle et qui change de vie. Et c'est elle qui va entendre après l'arrivée du commandeur, et c'est le cri de Doña Elvire qui va introduire en quelque sorte l'arrivée du commendatore, du commandeur. Bon, ce que je vous disais la dernière fois, c'est l'importance d'un moment qui peut advenir ou pas, qui peut advenir, ça c'est une drôle de... c'est le cas de le dire, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être programmé. Un moment où, on pourrait dire, on est dans le coup. On est dans le coup de quoi ? Ben de la signifiance, on va dire. On n'est pas dans le coup du sens. On est dans le coup de la signifiance. Et ce que la psychanalyse, enfin, ce que l'expérience, on va dire, que l'expérience de discours qu'on appelle la psychanalyse. Notamment avec, bien sûr, précisément avec Lacan, lecteur de Freud, mais en évidence, c'est l'importance, on pourrait dire, sans valeur, inestimable, de ce moment qui est celui où ce nous, chez un être parlant, ce quelque chose qui est habituellement séparé, qui est la parole, le fait de parler, et ce que l'on appelle, mais alors c'est pas le c'est évidemment, oui, on glisse toujours dans le sens, c'est pas le sens habituel, le sexuel. Le sexuel, tel que Freud en parle, c'est ambigu pour Freud, hein, c'est pas ce qu'on appelle habituellement le sexuel, hein, c'est plus compliqué que ça, c'est Lacan qui l'a bien défini, et ce qui est au cœur du sexuel, c'est cette question que Freud dit, énonce, en disant qu'après avoir entendu pendant 30 ans des analysants, notamment des femmes, il est toujours lui-même face à une question, en allemand ça se dit « Was will das Weib ?» que la femme. Et c'est à cette question-là que va essayer de répondre l'enseignement de Lacan. C'est-à-dire que l'enseignement de Lacan va répondre à ça. Alors, il ne faut pas glisser rapidement, parce que ça ne veut pas dire du tout que ce que chante Doña Elvire, c'est la réponse à ça. Mais la façon de répondre à cette question, ce que Freud n'a pas pu trouver comme réponse, puisqu'il est resté, on pourrait dire, il s'est prosterné devant cette question-là, c'est la question du féminin. Tu veux la femme, c'est qu'est-ce que le féminin ? Plus exactement, d'où vient le féminin ? C'est pas qu'est-ce que je suis, c'est d'où je suis, et suis-té. Voilà un peu l'énigme de chacun d'entre nous, et le féminin, c'est donc, vous voyez, c'est quelque chose dans cette perspective-là qui s'entend, qui est lié au langage, qui n'est pas lié à l'anatomie, même si l'anatomie peut intervenir, hein. Et ce féminin, ce que je vous disais, disais la dernière fois ou la fois avant, c'est quelque chose qui peut être à peu près daté historiquement, mais c'est pas ça qui compte, hein, ça pourrait être 100 ans plus tôt, 100 ans plus tard. C'est ce qui apparaît à un certain moment dans le monde grec antique, que va repérer plus particulièrement Nietzsche, qui est la naissance de la tragédie, qui correspond à la rencontre de deux expériences de discours, hein, c'est mieux que d'appeler de Dieu ou de etc. D'un côté, une expérience de discours, on va dire apollinienne, Apollon, qui est liée à ce qui était bien connu chez les Grecs, enfin ce qui va surtout être connu après, un peu plus tard, hein, le siècle de Périclès, Phidias, tout ça, les sculpteurs, qui est la dimension de la belle forme, du visible, on pourrait dire de la peinture, d'une certaine manière, hein. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, hein, des arts visuels, enfin, de toute façon, de ce qui se voit, était que, ce qui se voit, je vous ai parlé des images tout à l'heure, c'est ça. La dimension de l'image, c'est là où on se voit, chez l'autre. Donc, c'est toute la dimension, donc, de ce dieu qui est représenté, qui est soutenu par ce dieu, Apollon, qui est un dieu olympien, un des olympiens, et puis un autre dieu, qui lui n'est pas olympien, qui est à la fois le fils de Zeus, mais qui par sa mère s'est mêlé, n'a pas une origine divine, au sens des latins, des romains. Et ce dieu, c'est évidemment des romains et des grecs, et ce dieu, c'est tout à fait autre chose, c'est Dionysos. Et Dionysos, quand il vient à la rencontre des humains, il ne vient pas de l'Olympe, il vient des profondeurs, il vient de la mer, il vient de la terre. Ce n'est pas non plus la rencontre, on pourrait dire, comme ça, de la terre, et puis de ce qui vient du haut, c'est-à-dire, on pourrait dire ce qui vient, traverse les, ce qui vient des pieds, et puis ce qui vient de la tête. Non, c'est pas comme ça, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est deux univers différents, complètement différents, complètement. Ils n'ont rien à voir. Et pourtant, un jour, c'est la contingence, ce qui ne cessait pas de s'écrire, c'est-à-dire ces différences radicales entre les deux, cessant, alors quelque chose cesse de ne pas s'écrire. La rencontre des deux. Et la rencontre des deux, ce n'est pas une juxtaposition. Ça va être la naissance de la tragédie, c'est-à-dire le fait que un membre du cœur va se détacher et va répondre seul, qu'il est devenu seul, va répondre, va avoir à porter lui-même un destin que le cœur, ceux qui sont toujours ensemble, ceux qui sont toujours dans le, on va dire dans le spéculaire, visible, ceux qui se connaissent, ceux qui s'aiment les uns les autres, là, hein, comme l'amour du prochain, que les autres vont lui reprocher parce que justement, à partir de là, il n'y a plus de possibilité de totalité. C'est fini à jamais. La naissance de la tragédie, c'est le moment où la rencontre de ces deux opposés ne fait pas du tout une réconciliation, mais conduit ailleurs, vers le fait que ce qui est en jeu, c'est ça la musique, ce qui est en jeu va donner naissance à quelque chose qui se voit, du côté apollinien donc, mais transfiguré par la musique, qui est amenée par Dionysos. Donc, on en est toujours à la possibilité de cette rencontre. Voilà. Et tout ce que la science a mis en place, qu'il faut tout à fait respecter, parce que c'est une expérience de discours aussi particulière, et quand je dis la science, je mets évidemment la science humaine, les sciences humaines, quelles qu'elles soient, aussi bien anatomiques que physiologiques que psychologiques, les sciences humaines, ils se basent, vous savez, sur quoi ? Ben, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on touche, sur ce qu'on sent, sur les... Eh bien, toutes ces dimensions-là peuvent être, on pourrait dire sublimées, mais peuvent être toujours existantes, bien sûr, mais celui qui a rencontré ce moment-là n'aura plus le même rapport à ça, à ce qui se dit, à ce qui se voit. Pas toujours, c'est pas non plus comme ça un truc qui est acquis, qui fonctionne tout le temps. Mais il y a quelque chose qui est ouvert, qui s'est ouvert, et qui fait que ce ne sera plus comme avant, dans ce qui va venir comme étant, bien sûr, à ce moment-là, un avenir, c'est-à-dire du futur. Puisqu'avant, le futur, c'est l'image du passé, toujours. Ça ne peut pas être autrement, puisqu'on ne peut penser qu'à partir de quelque chose, d'une certaine façon, qui est le passé. La pensée est identique au passé. Donc vous voyez que le passé, c'est un participe passé. Donc tout ça, comme le dit la langue, comme le dit la grammaire, l'orthographe, tout ça, c'est quelque chose qui renvoie à quelque chose qui est du passé, ce qui ne veut pas dire que c'est passé. Voilà toute la richesse de la langue et tout ce que chante, d'une certaine façon, toute cette exaltation, peut-être même exultation, ex saltare, ça veut dire sauter, saltare c'est sauter, ex au-dehors, tout ce saut particulier de cette exultation particulière qui peut jaillir du corps humain, du corps qui est pris par quelque chose qui l'anime en fond, par rapport à quoi? Ça c'est une grande question. Eh bien, on n'en sait rien du tout. Par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui l'anime. Mais Lacan appelait ça l'objectita, en disant que l'objectita n'a pas d'être, n'est pas pensable. Mais, quand il anime, quand il nous anime, on pourrait dire que, et c'est ça la rencontre de Dionysos et d'Apollon, d'une certaine façon, c'est une façon d'en parler, quand il nous anime, à ce moment-là, bien sûr, quand il nous anime, à ce moment-là, eh bien, on ne pense pas. On ne pense pas, et après, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut toujours marcher comme ça, bien sûr, c'est une expérience de discours, après, on pourrait être repris par la pensée. Et nous dire, pourquoi tu fais ça, tu ferais mieux, tu serais plus tranquille si tu faisais, puis alors tu compliques bien la vie, etc. Ben non. C'est-à-dire que, même si ça peut venir, ce quelque chose de la pensée, après, ce qu'on appelle le surmoi, le moi ou surmoi, de toute façon, il va inévitablement résulter que cette voix-là qui nous parle comme ça, cette voix de la pensée, cette voix de la conscience, de la bonne conscience, ou de la mauvaise conscience, comme on voudra, cette voix-là n'a plus l'effet de torture, on pourrait dire, qui ne nous lâche plus. Ça, c'est ce qui se passe au premier acte. pourrait dire, jusqu'au trio des masques, jusqu'à ce moment particulier où, alors qu'ils pensent, tous les trois qu'ils arrivent, qu'ils vont, ils ont mis un masque pour que ça paraisse peut-être plus extraordinaire, hein, et alors qu'ils arrivent tous, en étant sûrs qu'ils sont tous remontés, comme on dit, c'est une cohorte de vengeance, hein, et c'est soit Doña Ana, soit Doña Elvire qui l'anime, notamment c'est une des deux femmes, hein, particulièrement, puisqu'il a touché à une femme, Don Juan, hein, notamment, eh bien, tout d'un coup, le génie de Mozart, c'est de montrer que il s'avance, c'est comme si il dépassait les limites de la scène, ce qu'on appelle dans le théâtre grec le proscenium. Pro, ça veut dire en avant de la scène, un tout petit espace où venait des, où quelque chose pouvait se passer, un tout petit espace juste avant le public. Ils viennent là et à ce moment-là, on ne sait plus qui est qui. Il y a un moment d'étrangeté qui fait que, mais c'est seulement un moment. Après, Mozart recouvre tout ça par toutes sortes de choses. Et en fait, ce moment, en quelque sorte, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas annonciateur de ce qui va être chanté après, notamment par les arias de Doña Elvire. Et la prochaine fois, on verra celui de Doña Ana qui est encore plus jaillissant, plus extraordinaire. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir sur l'importance. Parce que bien sûr, ce que je raconte là sur la tragédie grecque, on peut très bien dire que ça n'existe pas, et puis après tout, pourquoi pas, hein, c'est une façon quand même mythique de parler de quelque chose, hein, bien sûr, mais c'est l'ouverture, en quelque sorte, l'ouverture au champ, on l'écrit comme on veut ce mot-là, au champ de la signifiance, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse tous les sens, et ce que je vous disais la dernière fois, c'est que ça a été quelque chose qui n'a pas duré très longtemps chez les Grecs. Hein. Après la tragédie est arrivée la comédie, mais il y a surtout eu un des trois tragiques, hein, Euripide, qui était un élève de Socrate, et à partir du penseur il était Socrate, et puis Platon, tout ça. La pensée va reprendre ses droits et la tragédie grecque, telle qu'elle apparaît à un moment, va disparaître. C'est une assez bonne illustration de la façon dont il y a une énigme, dans la façon de parler de cette énigme qui est au cœur de chacun d'entre nous, au cœur de chaque être parlant. Énigme qui peut ou non, bien sûr, à condition qu'on ne réponde pas comme Édipe aux trois questions de la Sphinx, hein, c'est sur eux une bonne question, ben, ça se termine mal évidemment, hein, non seulement pour la Sphinx mais aussi pour Édipe, hein, vous savez ce qui s'est passé, hein. Le problème c'était pas spécialement de tuer Laïos, hein, c'était plutôt de l'ahusser pendant des années et des années sur le père, ça aurait produit autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.